ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Et puis l'Europe, c'est aussi l'espoir de progrès.
L'Europe du côté de chez nous.
Une coproduction Radio BLV, Maison de l'Europe, Drôme Ardèche. L'Europe du côté de chez nous. Une émission qui présente ce que fait l'Europe sur nos territoires, en donnant la parole aux femmes et aux hommes de Drôme et d'Ardèche, engagés sur des projets en lien avec l'Europe.
Cette émission vous est présentée par Ardiana Tosca, enseignante spécialisée sur les questions européennes, et Anna Gasquet, responsable du Centre d'information Europe Direct Drôme Ardèche.
Bonjour Anna.
Bonjour Ardiana.
Bonjour chers auditeurs et merci d'être avec nous et à l'écoute de notre deuxième émission, l'Europe du côté de chez nous, dans les studios de BLV Radio. Nous commençons sans tarder avec notre première rubrique d'aujourd'hui, le sujet du mois. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la CoopRoute, une route européenne de la culture coopérative. C'est une idée qui tente de construire, pas à pas, un réseau européen de coopératives pour promouvoir à la fois leur métier, leurs valeurs, leur territoire et leur culture. Notre célèbre scope ardéchoise, Ardelaine, a été la référente pour la France. Mais c'est quoi cette idée, Anna ?
Bonjour. Alors, nous avons aujourd'hui avec nous deux femmes qui vont nous présenter le projet CoopRoute. Alors, bonjour Béatrice.
Bonjour.
Bonjour Noémie.
Bonjour.
Voilà. Aujourd'hui, vous avons invité pour présenter CoopRoute. Mais d'abord, présentez-nous qui vous êtes et d'où vous venez.
Je suis Béatrice Barras et je viens ici, là, au titre de la SCOP Ardelaine, qui est en Ardèche.
Moi, c'est Noémie Calva et je travaille aussi à Ardelaine en Ardèche avec Béatrice. Voilà.
Ardelaine, Béatrice, dis-nous un petit peu qu'est-ce que c'est, puisque c'est assez connu quand même en Drôme Ardèche. C'est quelque chose qui a déjà quelques années, je crois. Tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, c'est une coopérative qui a été créée en 82, donc là, l'approche, c'est 40 ans. Elle a été créée donc pour transformer la laine sur le site d'une ancienne filature de laine et elle s'est développée vraiment tout au long de ces années en diversifiant ses activités. Donc elle tond les moutons, travaille la laine, fabrique des produits en literie, donc des matelas, des couettes, des oreillers, des choses comme ça. Elle fabrique aussi des vêtements et elle commercialise tout ça en vente directe, donc sur place à Saint-Pierre-Ville. Et puis aussi sur les foires et salons et aussi par correspondance ou sur Internet. Et puis, elle a aussi des activités touristiques et culturelles puisque sur place, il y a deux parcours muséographiques sur l'histoire du travail de la laine. Il y a une boutique, il y a un restaurant, il y a un café-librairie. Elle vend aussi des livres sur toutes ces thématiques. C'est-à-dire qu'Ardelaine, en fait, elle s'intéresse autant au patrimoine, à l'Ardèche, au textile, puisque c'est son métier principal, à l'économie sociale aussi, puisque c'est vraiment une forme particulière d'entreprise qui est la coopérative et participative. Donc, les SCOP, ça veut dire ça, une société coopérative et participative. Donc, c'est une forme d'organisation d'entreprise particulière qu'elle souhaite aussi promouvoir. Donc, elle partage avec ses visiteurs en faisant des visites de la coopérative.
D'accord. Voilà. Oui, donc on voit que c'est un très beau et très vaste projet qui existe depuis longtemps à Saint-Pierre-Ville, donc en Ardèche, dans la montagne ardéchoise. Et puis tu le connais très bien puisque tu es à l'origine fondatrice.
Voilà, je fais partie des fondateurs, mais là maintenant on est beaucoup plus nombreux puisqu'on est près de 60 salariés à travailler à la laine, etc. Et tous les métiers d'Ardelaine, dans tous les métiers d'Ardelaine.
Pouvez-vous nous dire quel est le lien entre Ardelaine et l'Europe ?
Donc, le lien avec l'Europe, il a toujours existé parce que justement, commencer une aventure comme Ardelaine dans un tout petit pays ardéchois, en fait, il y a le danger aussi d'être un peu coupé du reste du monde. Et au contraire, tout au long des années, Il y a toute une série d'activités qui ont été développées justement pour pouvoir être un réseau avec les autres. Donc des réseaux locaux, des réseaux nationaux et aussi internationaux. Et donc Ardelaine a toujours pensé que c'était important justement de participer à des dynamiques européennes parce qu'on doit être en lien avec les autres.
Donc, toujours dans le cadre de la diversification de vos activités et dans cette volonté de mettre votre expérience au service d'autres coopératives dans d'autres pays, au-delà des frontières nationales, un nouveau projet a pris naissance. Il s'agit de Coprout.
Oui, Coprout, en fait, c'est une sollicitation du niveau européen des coopératives qui s'appelle la CECOP, Confédération européenne des coopératives. Les coopératives sont organisées au niveau local, au niveau régional, au niveau national, au niveau européen et au niveau international. Et donc, la CECOP a lancé un projet de route européenne de la culture coopérative pour promouvoir cette culture coopérative, pour permettre à des gens de rencontrer des coopératives et de comprendre comment ça fonctionne, de partager leurs aventures et leurs produits, et acheter leurs produits aussi. Et en fait, il se trouve qu'ils ont identifié 72, je crois, destinations dans 12 pays européens qui ont volontairement adhéré à ce projet en disant oui, nous, on veut bien accueillir, on veut bien parler de nos projets, on veut bien, des visiteurs qui s'intéressent à la culture coopérative, on veut bien promouvoir cette culture-là et le patrimoine qu'on travaille, etc. Et donc, nous, on a fait partie de ces destinations. Quand on a vu passer ce projet, on nous a sollicité, on a dit, mais c'est formidable, ça va faciliter les rencontres avec d'autres coopératives au niveau européen. Donc, ça nous fait sortir du territoire et ça, c'est une bonne idée. Et donc,
vous avez saisi au vol cette opportunité de participer à ce projet européen.
Voilà, et moi, j'ai fait partie du comité stratégique. On s'est beaucoup investi là-dedans. Et donc, pendant 3 ans, ça a été un énorme travail pour mettre ça en place. Mais comme vous le savez sûrement, c'est long pour mettre un projet comme ça.
Il faut être patient.
Déjà identifier, faire adhérer.
Exactement.
Et ensuite,
c'est votre première étape.
Animer. Toute cette animation qui est nécessaire pour la mise en réseau, pour l'activation du projet sur le terrain.
D'accord.
Et malheureusement, les financements sont arrêtés avant de pouvoir passer à ce stade-là.
D'accord.
Donc, on a tous regretté.
Et à ce moment-là, alors Noémie, qu'est-ce qu'il s'est passé une fois que l'identification de ces différentes COP ou SCOP au niveau européen a été faite, qu'il y a eu l'adhésion de ces différents sites en Europe qui travaillent sur la coopérative, l'action coopérative, une cartographie ensuite. Du coup, quelle a été la deuxième étape pour Ardelaine?
Donc, une fois que cette première étape s'est conclue, en fait, certains acteurs se sont retirés du projet, notamment les unions des coopératives nationales. Et donc, ce sont les destinations qui se sont portées portrices, qui ont choisi de continuer le projet. Et en particulier Ardelaine, donc nous pour la France, et la coopérative Betania pour l'Italie, qui ont vraiment, fait un accord officiel de chef de file pour la continuation du projet. Et donc c'est là que l'aventure a un peu commencé pour Ardelaine, parce que au lieu de, on a pris le temps en fait avant de se lancer dans un autre projet européen ou avant d'aller chercher des fonds européens pour un deuxième projet, on a pris le temps de mettre en route le projet de ces coproutes, de ces routes des coopératives, et donc on a organisé 2 voyages.
D'accord.
En 2018, un voyage en Italie et en 2019, un voyage en Espagne.
D'accord, oui. Donc, c'était l'occasion comme ça, en fait, de faire se rencontrer, de créer le réseau, c'est ça?
De créer le réseau. Et pour ça, on s'est basé aussi sur le réseau qui existe déjà en Drôme-Ardèche. Donc, et on est parti une quinzaine de coopérateurs, en fait, de la Drôme et de l'Ardèche. pour aller faire ce voyage et à la rencontre de, donc des Italiens et ensuite des Espagnols.
D'accord. Et votre prochaine étape, c'est laquelle, quelle destination?
Là, en ce moment, on vise l'Allemagne.
D'accord. Ok, oui, il y a beaucoup, voilà, j'imagine, de projets coopératifs intéressants.
Voilà, et chaque fois, on rencontre aussi, bien sûr, des contextes différents, des histoires aussi différentes, des pays. Et on partage la même culture coopérative, mais nos pays ont des histoires différentes et avec tout ça, c'est bien intéressant.
Oui, je trouve
donc
que c'est...
ce sont des voyages qu'on considère apprenants, c'est-à-dire que
des
on
visites
voyage,
d'études un peu.
Voilà, c'est entre le voyage d'études et les visites, voilà, parce qu'on débriefe, on discute, on réfléchit.
L'échange de bonnes pratiques.
Et voilà, voilà.
Exactement, bah c'est le cœur souvent des projets européens, c'est l'idée de travailler ensemble pour s'inspirer de nouvelles pratiques, sortir un petit peu de son cadre culturel convenu, de son cadre législatif convenu aussi, c'est différent d'un pays à l'autre, et comme ça de se dire, ah bah oui tiens, eux tel problème, tel défi, ils l'ont affronté de manière différente, j'imagine que ça a pu donner lieu à ce genre d'échange.
Mm-hmm. Tout à fait, oui. Et c'était très enrichissant justement pour les personnes qui nous ont reçus et qui ne s'attendaient pas à voir cette mini-délégation de coopératives françaises en visite. Et puis les personnes qui ont formé les groupes de voyageurs. Donc c'est enrichissant de multiples façons en fait. Et c'est pour ça qu'on veut le poursuivre.
J'imagine en effet que c'est original de se dire, de penser à des routes touristiques, mais sous l'angle d'aller visiter des lieux coopératifs comme ça. C'est innovant, je trouve ça innovant. Ouais.
Oui, oui, je pense aussi. Et c'est aussi très formateur pour les coopérateurs qui, justement, sont obligés, à travers ces voyages, se posent tout un tas de questions que peut-être ils ne seraient pas posées en restant chez eux et qui deviennent vraiment beaucoup plus... qui comprennent beaucoup mieux ce qu'est une coopérative et aussi ce qu'est une coopérative dans tel pays ou tel autre pays.
Et les financements européens, que vous ont-ils permis de réaliser dans ce projet?
Eh ben, ce projet est né grâce à des financements européens. Donc, toute la première partie de repérage, de mise au point d'un réseau, d'un site internet, tout ça a été financé de 2013 à 2015. Et ensuite, comme j'ai dit avant, en fait, pour l'instant, on est un peu en découverte des différents dispositifs européens qui pourraient intervenir dans cette deuxième phase. Mais pour l'instant, on est dans une phase d'expérimentation, surtout.
D'accord. Merci beaucoup pour votre témoignage aujourd'hui. On souhaite un bel avenir à la route européenne des coopératives. Et puis, on vous invitera probablement pour nous débriefer un petit peu dans la suite de votre projet, peut-être après votre visite en Allemagne ou quand vous aurez commencé à développer ces itinéraires touristiques et culturels entre les coopératives européennes. Merci beaucoup Béatrice et Noémie et à bientôt.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Bien, mais revenons à notre pause musicale qui aujourd'hui a une particularité. Puisque avec Anna, nous avons conçu un petit jeu qui va suivre cette pause musicale. Nous avons choisi aujourd'hui un auteur-compositeur, peut-être pas très connu chez nous, originaire d'un pays membre de l'Union européenne, mais lequel ? C'est à vous de le trouver. Après la chanson, les 5 premiers auditeurs qui nous appelleront au 06 99 61 26 07 pour nous indiquer la langue utilisée dans ce morceau, gagneront un t-shirt à l'effigie de l'Europe. Rendez-vous pour la réponse lors de notre prochaine émission en avril.
A szelet megfordítani, úgy sem tudod. Ujjait közül a kor, úgy száll, mint szürke por, és a perc hordja el.
Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmod visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Az álmot meg nem álmodni úgy sem tudod. Az érzést elhallgattatni úgy sem tudod. Ujjaid közt a kor úgy száll, mint szürke por, és a perc hordja el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmod visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon.
Voilà, alors, qui a deviné de quelle langue il s'agit ? C'est vrai que ce n'est pas une langue qu'on entend très souvent. Donc voilà, vous avez entendu Ardiana, à vos téléphones. Appelez-nous au 06 99 61 26 07. Les 5 premiers auditeurs qui nous appelleront auront la possibilité de gagner un super t-shirt. Et lors de notre prochaine émission, en avril, on vous donnera la bonne réponse. Donc quelle était cette langue que nous avons entendue à l'instant ?
Bien, mais parfait Anna, penchons-nous maintenant sur l'agenda du Centre d'information Europe Direct sur les actions à venir. Que propose le Centre d'information Europe Direct, Anna, pour le mois d'avril et de toute façon à partir du mois de mars, là, la quinzaine du mois de mars et le mois d'avril, quelles sont les actions essentielles du Centre Europe Direct ?
Oui, alors, comme vous le savez, on vient de passer la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Et comme chaque année, le Centre Europe Direct se concentre sur cette question-là. Et nous avons préparé deux temps forts. L'un qui donc a déjà eu lieu le 9 mars, un déjeuner. 36 femmes se sont réunies pour rencontrer Michèle Rivasi, l'eurodéputé, et parler de leurs engagements, de comment elles agissent sur leur territoire. Une réunion entre femmes qui a été très appréciée, donc qui a eu lieu le 9 mars. Mais nous préparons également à un autre temps fort qui sera à la MJC de Portes-les-Valences le 20 mars. Une rencontre témoignage de femmes engagées. D'ailleurs, c'est le nom de l'événement. On l'a appelé l'engagement, une affaire de femmes. Voilà, donc c'est une question un petit peu volontairement provocatrice. Le 20 mars à la MJC de Portes-les-Valences et dans le cadre de la quinzaine des droits des femmes qui est organisée justement entre le 7 et le 20 mars, en ce moment même, avec notre partenaire de la MJC de Portes-les-Valences et beaucoup d'autres partenaires de cet événement, Femmes Solidaires, Titane, le Centre Imaginaire, le Train Théâtre, l'Aglo Valence Roman, la CAF. Et le 20 mars, nous avions à cœur d'inviter justement des femmes engagées au travers d'un mandat politique ou associatif pour qu'elles nous montrent, qu'elles nous disent, qu'elles témoignent en fait de
Comment elles le vivent, cet engagement? Comment c'est compliqué, peut-être plus compliqué pour une femme? Ou comment, quelles sont les barrières qu'elles ont dû lever, peut-être elles-mêmes dans leur propre vie, ou du fait du regard des autres, du regard de la famille, de leur société? Donc nous aurons pour cette rencontre cinq personnes remarquables de par leur engagement à différents niveaux. À commencer par l'eurodéputé Michel Rivasi, qui a été député au niveau national, mais aussi engagé comme élu local. Donc il y a plusieurs types d'engagement politique et aussi associatif d'ailleurs à son compte. Il y aura une autre élue, Geneviève Moulin, qui est mairesse d'un petit village de la Drôme, Soyans, du côté de Soues. Il y aura également la coprésidente de l'Union bidépartementale des MJC, Odile Méry. Catherine Ferraris, la fondatrice et coprésidente de l'association Titane. Et enfin, Odile Favra, qui est la fondatrice de l'Astivalence et puis également administratrice de l'association Femmes en Lutte. Et puis, je dois préciser, bien sûr, qu'en plus, ce qui est bien, c'est que cet événement est en partenariat aussi avec Radio BLV. Parce que Sylvie Mabilon, qui est donc animatrice à cette antenne, sera l'animatrice de la rencontre. Et l'événement, donc si vous ne pouvez pas venir, ou si vous êtes malade peut-être, et que vous ne pouvez pas venir à la rencontre du 20 mars, vous pouvez aussi nous écouter sur la radio, en direct, sur les ondes de Radio BLV et de Déclic Radio. Voilà.
En tout cas, Europe Direct, de toute façon, le Centre Europe Direct vous invite justement à assister à cette soirée de témoignages de femmes engagées au travers de mandats politiques et associatifs. Je répète, le vendredi 20 mars, de 8h à 20h.
De 18h.
De 18h à 20h à la MJC des Portes, de Portes-les-Valence. Quelles autres activités propose le Centre Europe Direct, à part voilà, cette rencontre intéressante dans le cadre de la Journée des Femmes?
Eh bien, nous aurons un certain nombre d'activités, d'ateliers d'information centrés autour des questions de mobilité des jeunes et aussi d'emploi. Parce que c'est vrai qu'une grande partie de notre rôle sur le territoire de Drôme Ardèche est également d'informer les jeunes et les moins jeunes, mais c'est vrai que beaucoup de programmes sont à destination des moins de 30 ans, de toutes les possibilités qui existent et que souvent qui sont assez mal méconnues, de pouvoir partir, voyager, apprendre une langue, étudier, faire un stage, faire du volontariat, faire un séjour au pair, et ainsi de suite. Et donc, pour cela, nous donnons rendez-vous sur six dates. Exactement, j'en oublie une. Six dates sur tout le territoire de l'agglo, Valence-Romand. En effet, cette initiative est organisée en partenariat avec le Point Information Jeunesse de Valence-Romand-Agglo. Et donc, six mercredis, dans les médiathèques, différentes médiathèques de l'agglo. Vous le retrouverez toutes nos dates sur notre site web et sur notre page Facebook. Mais pour citer les prochaines, ce sera le 18 mars à Bourg-les-Valence, à la Passerelle, à la médiathèque La Passerelle. Le 25 mars à la médiathèque de Portes-les-Valence. Le 1er avril à la médiathèque de Mours-Saint-Eusèbe. Le 15 avril à la médiathèque du Plan à Valence, le 22 avril à la médiathèque La Monnaie à Romans et enfin le 6 mai à la médiathèque de Chabeuil. Donc c'est la possibilité de 14 à 18 heures sur ces différents rendez-vous pour toute personne, mais c'est, comme je l'ai dit encore, c'est surtout quand même pour les jeunes, de trouver des idées pour, par exemple, cet été, faire un job. Ça peut être en France, mais ça peut être aussi à l'étranger. Ça peut être un chantier de jeunesse, du volontariat à faire en France, mais aussi à l'étranger. Donc, il y aura la possibilité de trouver tous ces types d'informations et nous serons là pour répondre à ces questions.
Donc, ces rendez-vous, opération job d'été.
Et mobilité, internationale
dans six médiathèques du territoire de l'agglomération Valence-Romand.
Exactement. Et enfin, début avril, un autre rendez-vous qui là sera vraiment autour de l'emploi, Nous participons, Europe Direct Grand Ardèche participera avec un stand le 9 avril au marché de l'emploi de Valence, qui donc permet voilà, aux personnes demandeurs d'emploi de trouver des offres. Et nous, nous serons là aussi pour pouvoir permettre à ceux qui le souhaitent de partir sur des projets professionnels à l'étranger également. Parce que pour les demandeurs d'emploi, pour les moins de 25 ans, il y a des possibilités. Pour les plus de 25 ans, il y en a d'autres. Ou avec les missions locales, ou avec Pôle emploi, et des bourses européennes, Erasmus, pour partir faire des stages, ou également des aides pour trouver, pour aller passer un entretien, pour trouver un job à l'étranger.
Bien, et mais après ces actualités du centre et les activités présentées par le Centre d'information Europe Direct, passons maintenant en direct de Bruxelles pour passer en revue l'actualité européenne.
En direct de Bruxelles.
Alors, on va commencer justement sur la question liée aux femmes, parce que le 8 mars et le mois de mars dans son ensemble est chaque année l'occasion de multiples célébrations autour des droits des femmes. On en a cité quelques-unes en local, mais il nous paraît important de revenir sur l'action et les grandes avancées de l'Union européenne en faveur de l'égalité des sexes. Que fait l'Union européenne pour les femmes ? Son action reste largement méconnue, pourtant l'UE a toujours favorisé une prise de conscience au niveau européen de l'importance de l'égalité des sexes. L'Europe a été une locomotive, disons, pour faire avancer la promotion des femmes.
En effet, oui, dès le traité fondateur de l'Union européenne de 1957, l'Union européenne a fait de l'égalité femmes-hommes une valeur fondamentale de l'Union européenne. D'autres directives vont suivre et on peut mentionner ici celle du 10 février de 1975. L'Union européenne a adopté sa première directive européenne contre la discrimination salariale. La Cour de justice de l'Union européenne a reconnu l'effet direct du principe d'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes. Autrement dit, les voies de recours sont ouvertes aux citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui souhaitent faire valoir leurs droits. Depuis 1984, il existe également au sein du Parlement européen une commission dédiée aux droits des femmes et à l'égalité des genres.
Et puis dans les années 2000, avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, on a assisté à une nouvelle base pour les revendications des femmes au niveau de l'Union européenne. En effet, une partie de cette charte cite l'égalité entre les hommes et les femmes qui doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. Puis le rééquilibrage de la vie familiale et professionnelle sera au cœur du travail européen dans les années 2010 avec une directive européenne instaurant un congé parental minimum qui est entré en vigueur dans tous les pays de l'Union européenne afin d'encourager davantage de pères à utiliser ce congé majoritairement pris par les mères. La Commission européenne a proposé récemment, en avril 2017, de moderniser son cadre juridique. L'objectif étant un meilleur partage des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes.
Dans les mesures les plus récentes, on peut aussi mentionner celle de 2019, où l'objectif prioritaire a été celui d'égalité dans le renouvellement des institutions. Ainsi, le Parlement européen, issu des élections de mai 2019, affiche un record de femmes élues. Il est actuellement composé de 39% de femmes. La Finlande et la Suède sont les deux seuls pays à y envoyer plus de 50% de femmes. Actuellement, la stratégie quinquennale européenne 2020-2025 insiste en faveur de l'égalité femmes-hommes. Cette stratégie doit veiller à ce que la Commission intègre une perspective d'égalité dans tous les domaines de l'action de l'Union européenne. Plusieurs mesures concrètes sont annoncées, parmi lesquelles l'extension des domaines de criminalité aux violences sexistes et sexuelles, telles que l'harcèlement, la maltraitance, les mutilations génitales. La Commission lance également actuellement une consultation sur l'élaboration d'une directive sur la transparence des rémunérations entre femmes et hommes. Elle vise par là l'adoption d'un texte et de mesures contraignantes d'ici à la fin de l'année 2020.
Et puis, on peut citer également cette nouvelle Commission européenne qui est entrée en vigueur depuis le 1er décembre et la première Commission européenne présidée par une femme, Ursula von der Leyen, et qui a tenu justement à ce qu'il y ait parité au sein des postes de responsabilité de la Commission européenne. Bon, elle n'est pas exacte, la parité, puisqu'on est à 12 femmes commissaires contre 15 hommes commissaires. Mais disons, voilà, c'est quand même un pas assez important. Et on sent dans le discours de Ursula von der Leyen, qui du coup a pris ses fonctions depuis quelques mois, que voilà, elle parle souvent en faisant référence à son expérience personnelle et notamment son expérience de femme. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau, assez un petit peu unique, qui est peut-être lié au fait qu'elle est femme et qu'elle aborde, disons, les questions professionnelles et politiques aussi du fait de son genre. Voilà.
Oui, tout à fait. Donc, l'Union européenne continue de rester une locomotive pour la promotion des droits de la parité homme-femme.
Blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our mind will always stay.
Być może ten ostatni fakt zakończy spór, przekona świat. Przemocy żaden sens i nic nie przyjdzie nigdy z niej.
For all us born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star.
Voilà, on vient d'entendre une magnifique version de Fragile, chantée par Sting et ici accompagnée par Anna Maria Jopek, une Polonaise, une grande voix musicale de la chanson polonaise. Et voilà, c'est vrai qu'on a choisi bon, ce morceau qui est magnifique, mais aussi parce que Fragile, ça nous renvoie aussi à plusieurs disons, éléments en ce moment qui fragilisent l'Europe, des crises. On vient de parler déjà des questions liées à la lutte contre les violences faites aux femmes. On en a beaucoup entendu parler dernièrement aussi dans l'actualité française, du cinéma, mais dans beaucoup de domaines. C'est encore après l'épisode de hashtag MeToo, c'est encore bien, bien présent dans la tête de chacun et ça évolue un peu. mais aussi la fragilité de l'Union européenne, elle est sur d'autres plans. Tu vas nous en parler, Ardiana. Elle touche actuellement la crise actuelle à la frontière grecque, où on a de nouveau une forte crise migratoire, disons, si on peut parler ça de crise, même si ça dure déjà depuis pas mal de temps. Et puis aussi l'urgence liée au virus et l'épidémie du coronavirus.
Oui, justement, que fait l'Europe pour affronter cette épidémie du coronavirus? D'abord, le Parlement européen vient de décider de réduire l'agenda de sa plénière à Strasbourg afin de limiter les risques de contagion au sein de l'institution, invitant les membres du personnel les plus fragiles à recourir au télétravail. Alors que la France et l'Allemagne ont dépassé les 1000 cas confirmés, le gouvernement italien a décidé de placer l'ensemble du pays en quarantaine. Mais d'autres mesures plus récentes ont été prises par l'Union européenne. Et justement, Anna, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en détail, nous en parler un petit peu plus en détail par rapport à ces mesures vis-à-vis de cette crise sanitaire du coronavirus?
Oui, en effet, cette crise provoquée par le coronavirus a tout à la fois une dimension humaine importante, mais aussi un impact économique. Et environnemental. On l'a vu aussi, finalement, avec récemment les images satellites qui montrent aussi l'amélioration drastique de la pollution de l'air en Chine, 2-3 mois après que le pays soit complètement à l'arrêt. Donc voilà, ça a des impacts importants. Et récemment, les dirigeants de l'Union européenne, donc, ils se sont réunis cette fois-ci en vidéoconférence, justement, pour les raisons de contamination, aujourd'hui même, se sont réunis pour essayer d'apporter ensemble une réponse coordonnée. Donc, on voit que cette crise aussi amène à essayer de coordonner davantage notre action, à répondre de manière coordonnée entre les 27 chefs d'État et de gouvernement européens, mais aussi le président du Conseil européen et la Commission européenne. La Commission européenne, d'ailleurs, va donc prendre les mesures suivantes. Elle l'a annoncé aujourd'hui. D'une part, coordonner les mesures nécessaires à prendre entre les ministres de la Santé et de l'Intérieur des 27 pays membres, et également travailler avec une équipe d'épidémiologistes et de virologues des différents États membres sur les mesures à prendre et comprendre l'évolution de l'épidémie. Deuxièmement, dresser un inventaire des équipements de protection et appareils respiratoires disponibles en Europe, de manière à pouvoir anticiper la production et la mise à disposition. Et également, booster tout ce qui est recherche et développement pour, bien sûr, trouver des vaccins, améliorer le diagnostic et le traitement pour faire face à ce virus. On annonce une initiative européenne de 140 millions d'euros dédiée à cette partie recherche et développement pour lutter contre le coronavirus.
Toujours dans le cadre des discussions sur une réponse coordonnée de l'Union européenne, on a aussi des actions communes sur le plan économique, notamment un fonds de presque de 25 milliards d'euros. Tout à fait, sera débloqué et mis en place pour soutenir les systèmes de soins et de santé, les petites et moyennes entreprises, le marché du travail et d'autres composantes vulnérables de l'économie. Donc, comme pour la zone euro, finalement, pour cette épidémie de coronavirus, le défi sera d'avoir un récit commun entre les pays européens.
Tout à fait. Et ce défi de récit commun, de solutions communes et coordonnées, il touche aussi, bien sûr, la crise migratoire, ou disons la crise, ça peut être aussi de l'accueil migratoire, puisque finalement, c'est de ça qu'il s'agit, comment accueillir et comment gérer les flux migratoires. Le 28 février, la décision turque d'ouvrir ses frontières aux migrants souhaitant rejoindre l'Union européenne a généré une crise diplomatique entre Bruxelles et Ankara. En effet, cette mesure revient sur un accord bilatéral établi en 2016 et qui prévoyait, en échange d'une aide financière de 6 milliards d'euros, le renvoi systématique des migrants vers la Turquie. Et l'UE a également dû répondre aux appels à l'aide du gouvernement grec, du coup, qui a dû gérer plus de 24 000 tentatives d'entrée en provenance justement de son pays turc voisin. Donc, l'Union européenne a déclenché pour cela son mécanisme de protection civile. qui permettra d'une part à la Grèce de bénéficier des équipements et personnels médicaux, des tentes, des couvertures dont elle estime avoir besoin pour pouvoir justement gérer cet afflux massif. Mais également, d'autre part, le travail sera de relancer un dialogue mis à mal par la situation à la frontière gréco-turque. Et la présidente Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et le président du Conseil européen Charles Michel, d'ailleurs, ont reçu le 10 mars le président turc Recep Tayyip Erdogan à Bruxelles pour essayer de relancer ce dialogue et trouver une solution et surtout éviter de mettre ces pauvres personnes migrantes entre le marteau et l'enclume, comme on dit d'habitude.
Justement, ces deux crises sanitaires, cette crise sanitaire et l'autre migratoire sont la preuve de la nécessité d'un budget de l'Union européenne solide. Pourtant, les députés européens déplorent que les États membres ne soient pas prêts à donner à l'Union européenne les ressources nécessaires pour relever ces défis auxquels l'Union européenne est sollicitée à faire face. L'Union européenne ne peut pas faire plus avec moins. C'est la phrase prononcée par les députés européens suite à l'échec, malheureusement, du récent sommet européen consacré au budget et qui s'est achevé sans que les États membres ne trouvent un accord sur une position commune concernant le prochain cadre financier pluriannuel européen 2021-2027. Les députés, ils ont exhorté la Commission européenne à présenter un plan d'urgence compte tenu des retards auxquels le prochain budget à long terme sera inévitablement confronté afin de protéger les bénéficiaires tels que les agriculteurs, les villes, les régions, les étudiants, les chercheurs, les entreprises et les ONG dans toute l'Europe.
Voilà, notre émission touche à sa fin.
Mais c'était un plaisir de partager cette émission avec vous, chers auditeurs. Nous vous rappelons que cette émission sera diffusée, Anna.
Voilà, donc elle est diffusée à plusieurs reprises, les 15 derniers jours du mois. Et c'est le lundi à 19h et le dimanche à 10h. Vous pouvez nous retrouver sur les ondes de Radio BLV, le 93.6 FM. Et sur, si vous n'êtes pas dans la zone de diffusion, sur notre site, sur le site de Radio BLV, donc www.radioblv.com. Voilà.
Et mais nous serons toujours ensemble avec Anna pour notre prochaine émission, la troisième émission de l'Europe du côté de chez nous au mois d'avril. On vous attend et on sera très content de, voilà, de vous avoir et de partager avec vous la prochaine émission.
Merci.
Merci. À bientôt. Ciao. Miropavshim.
Hasta luego.
L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Et puis l'Europe, c'est aussi l'espoir de progrès.
L'Europe du côté de chez nous.
Une coproduction Radio BLV, Maison de l'Europe, Drôme-Ardèche.